Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée dimanche 1er août, notamment par la prière mariale de l'Angélus. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en République démocratique du Congo, au Maroc et au Nigeria, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Lors de la prière mariale de l'Angélus, dimanche 1er août, le pape François est revenu sur la scène d'ouverture de l'Évangile du jour, Jean chapitre 6, versets de 24 à 35, qui relate les barques qui se dirigent vers Capharnaüm, où la foule va chercher Jésus. Nous pourrions penser que c'est une très bonne chose, a-t-il souligné, mais l'Évangile nous enseigne qu'il ne suffit pas de chercher Dieu, nous devons aussi nous demander pourquoi nous le cherchons. Mais de cette manière, la foi reste superficielle et miraculeuse. Nous cherchons Dieu pour qu'il nous nourrisse, puis nous l'oublions lorsque nous sommes rassasiés. La foi est immature. Si nos propres besoins passent avant Dieu, a-t-il souligné. Le Seigneur agit bien au-delà de nos attentes, a poursuivi François. Il veut vivre avec nous dans une relation d'amour. Et le véritable amour est désintéressé, il est gratuit. La deuxième question posée dans l'Évangile est également importante, a expliqué le pape. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est comme si les gens provoqués par Jésus disaient « Comment purifier notre recherche de Dieu ? Comment passer d'une foi magique qui ne pense qu'à nos propres besoins à une foi qui plaît à Dieu ?» Face à cette interrogation, c'est Jésus qui indique le chemin. Il répond que l'œuvre de Dieu est d'accueillir celui que le Père a envoyé, c'est-à-dire lui-même Jésus, dans notre vie. Cela est vrai à l'égard de Dieu, mais aussi dans nos relations humaines et sociales, a encore souligné le pape. Lorsque nous cherchons avant tout la satisfaction de nos besoins, nous risquons d'utiliser les personnes et d'exploiter les situations à nos propres fins. L'invitation de l'Évangile est ainsi la suivante. Au lieu de nous préoccuper uniquement du pain matériel qui nous nourrit, accueillons Jésus comme le pain de la vie et à partir de notre amitié avec lui, apprenons à nous aimer les uns les autres avec gratuité et sans calcul, a conclu le Saint-Père avant de procéder à la prière de l'Angélus et l'impartition de la bénédiction apostolique.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Passons à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique.
Africa, totelemani,
ouvrons cette rétrospective par la République démocratique du Congo où les ordinations au diocèse de Bassankoussou nous ont été rapportées par notre correspondant local.
Au diocèse de Bassankoussou dans la province de l'Équateur, l'évêque du diocèse voisin de Lissala dans la province de la Mongala, Monseigneur José Bernard Licolo, a ordonné 2 nouveaux diacres et 3 nouveaux prêtres. L'événement a eu lieu au cours de la messe qu'il a présidée en la cathédrale Saint-Pierre et Paul le dimanche 18 juillet. Il s'agit pour le diaconat de Pierre-Roger Ilonga et Jean-Baptiste Lokouli et pour le presbytérat des abbés Patrick Lokilo, Jean-Clovis Lokouli et du père Guilain Agbasoa, des missionnaires de Mill Hill. Monseigneur José Licolo a été ordonné évêque récemment à Lissala. Il est fils du terroir de Bassankoussou et l'évêque de Bassankoussou, Monseigneur Joseph Mokobe, a invité son frère qui a ainsi administré pour la première fois le sacrement de l'ordre. À l'homélie de la messe, Monseigneur Licolo a insisté sur les caractéristiques du bon berger développées par le Seigneur Jésus lui-même. Le diacre est par essence serviteur avec une attention particulière aux pauvres. pauvres, aux plus petits, aux marginalisés, a rappelé Monseigneur Licolo. Et aux ordinats prêtres, l'évêque de Lissala a dit, par l'ordination sacrée, vous êtes institués pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour sanctifier le peuple des dieux et pour le gouverner. Avec un cœur sans partage, mettez-vous au service de l'évangile des dieux. Tout ce que vous êtes, votre intelligence, votre beauté, toutes vos aptitudes, tous vos talents sont désormais pour Dieu. Mesurez bien la gravité de votre engagement et agissez en conséquence. Jean-Baptiste Malengi Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Burundi, des ordinations presbytérales ont eu lieu chez les pères jésuites.
Dimanche le 25 juillet 2021, dans la chapelle du Sacré-Cœur de Jésus-Christ située dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, l'ordinaire du lieu Monseigneur Gervais Banchimi Obusa a procédé à l'ordination presbytérale de deux pères jésuites, à savoir le père Charles Niyigena et le père Jean de Dieu Abarugira, respectivement de nationalité rwandaise et burundaise. Dans son homélie, Monseigneur Gervais Banchimi Obusa a exhorté les ordinants à être de bons pasteurs dans la joie de partager le sacerdoce avec Jésus-Christ. Dans une interview accordée à la Radio Maria Burundi, le père Fabien Gasirwa, il est représentant régional de la congrégation jésuite rwandaise au Burundi, a indiqué que les ordonnés sont appelés à œuvrer davantage pour la réconciliation des peuples dans la sous-région meurtrie par des guerres répétitives dans son histoire.
Les deux prêtres qui viennent d'être ordonnés, comme tous les prêtres et même les chrétiens du Rwanda-Burundi, je crois que s'il y a un domaine où nous sommes appelés à œuvrer davantage, c'est le domaine de réconciliation, compte tenu de l'histoire de notre pays, compte tenu de l'histoire de notre région.
Quant au père Charles Niyigena qui venait d'être fraîchement ordonné, il est plein de gratitude. Pour lui, c'est un moment de grâce. La congrégation des pères jésuites est gratifiée de nouveaux prêtres pendant qu'elle chemine vers la célébration de 500 ans de la conversion de Saint Ignace de Loyola. Bujumbura, Cyril Sendaïze Ruka de Radio Maria Burundi pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence épiscopale, s'est félicité de la rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo mardi 27 juillet au palais de la présidence à Abidjan Plateau.
C'était l'événement du jour, le chef de l'État ivoirien recevant main dans la main son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais de la présidence Abidjan Plateau dans une ambiance détendue, fraternelle et cordiale. Une rencontre selon Monseigneur Ignace Bessi Dogbo qui était longtemps attendue par les Ivoiriens pour espérer briser le mur de glace entre ces deux hommes politiques, décrisper l'atmosphère politique ainsi offrir une nouvelle chance à la paix et à la réconciliation dans le pays.
Je pense que ce geste qui a été posé de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, c'est un geste qui vient à point nommé pour permettre d'avancer. C'est un élément important dans ce processus de recherche acharnée de la réconciliation. Et pour nous, Église catholique, qui avons dégagé une vision d'une Église communion autonome au service de tous, nous ne pouvons que nous réjouir que ce processus, qui est déjà en cours depuis des années, ait atteint un stade important non négligeable.
Le président de la conférence épiscopale ivoirienne a souhaité cependant que cet important pas fait sur le chemin de la réconciliation ne soit pas une vue de l'esprit.
Et comme j'ai eu à le dire à l'ouverture d'une assemblée plénière, que le virage ne se tourne pas en mirage. Parce que le virage peut devenir mirage si on ne joue pas franc jeu. Donc je pense que c'est un geste important qui a été posé. Il faut que ces gestes se multiplient et qu'on aille de hauteur en hauteur jusqu'à arriver au sommet de la montagne où se trouve la paix pour tous.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Bénin, le nonce apostolique Monseigneur Gérard Miles était en visite pastorale.
Après la conférence épiscopale du Bénin et plusieurs autres diocèses du pays qui ont eu l'opportunité de recevoir la visite du nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Monseigneur Marc Gérard Miles, depuis son arrivée au Bénin le lundi 3 mai 2021, c'est au tour des filles et fils de l'archidiocèse de Cotonou, le vendredi 23 juillet 2021, de l'accueillir à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde pour une célébration eucharistique qui marque officiellement le début de son ministère pour l'archidiocèse. Et l'ordinaire du lieu, Monseigneur Roger Humbedi, de s'adresser à son hôte.
Ce diocèse est particulièrement le vôtre, vu que vous y avez votre résidence et vos services en tant que représentant du pape. Toutes les portes du diocèse vous sont ouvertes à travers les visites et sollicitations diverses qui vous seront adressées. Vous découvrirez progressivement les réalités aux multiples facettes de notre diocèse.
Dans sa méditation des textes du jour, Monseigneur le nonce en a tiré quelques enseignements pour l'assistance.
Pour mieux vivre le commandement et consolider sa foi dans le Seigneur, il s'avère important d'écouter la parole de Dieu et de l'accueillir dans un bon cœur. Vivre régulièrement les sacrements de pénitence et de réconciliation, prier avec la parole de Dieu, participer avec dévotion à la Sainte Messe, développer une dévotion quotidienne à la Bienheureuse Vierge Marie.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Notre correspondante au Cameroun nous a fait écho du 9e congrès national de l'Association des femmes catholiques.
Rassemblées autour des évêques de la province ecclésiastique de Garoua, les femmes catholiques du Cameroun ont fait un bilan triennal de leur association. L'accent a été mis sur la vie de foi des membres, la méditation quotidienne de la parole de Dieu et l'élection d'un nouveau bureau national. L'évêque du diocèse de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, en encourageant les femmes catholiques dans leur engagement et leur dévouement dans les diocèses du pays, n'a pas manqué d'attirer leur attention sur un certain refroidissement de la charité fraternelle au sein de l'association. Plus concrètement, Monseigneur Abo les a mis en garde contre les tentations des honneurs, du pouvoir et du désir malsain de destruction de l'image du prochain. Tandis que l'aumônier national des femmes catholiques du Cameroun, l'abbé Gilles Nguaforte, a émis le souhait de voir germer une nouvelle génération de femmes catholiques dont le langage et le principe de vie seront l'amour. Au terme de ce 9e congrès, les membres du bureau exécutif ont été élus avec à leur tête la présidente des femmes catholiques du Cameroun, Judith Tchiato. La présidente nouvellement élue a promis de maintenir vive la communion entre les membres et de promouvoir un plus grand engagement des femmes catholiques dans l'Église et au service des pauvres. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La mort par balle d'une écolière vendredi par un soldat et un barrage payant de l'armée a provoqué l'émoi dans l'est de la République démocratique du Congo, où 6 militaires sont déjà en détention. Vendredi à Luachi, à 85 km au nord-ouest de Goma, le chauffeur d'un bus a refusé de s'arrêter à une barrière de tracasserie de l'armée où un militaire a tiré, atteignant une écolière qui est morte sur place, a déclaré Fabrice Monfiroy, président de la société civile dans le territoire de Massissi. Pour une taxe de passage de 500 francs congolais, soit 25 centimes de dollars américains, exigée à une barrière payante érigée par les forces armées de la République démocratique du Congo qui n'a pas été payée, une écolière a été abattue par des militaires, a déclaré de son côté le député provincial du Nord Kivu, Alexis Baounga. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a déploré samedi les tensions entre son pays et l'Algérie, réitérant son appel à rouvrir les frontières terrestres avec son voisin dans un discours prononcé à l'occasion de la fête du trône. « Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. La sécurité et la stabilité de l'Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc », a assuré Mohamed VI en s'adressant aux Algériens. Il a invité le président algérien Abdelmajid Tebboune à faire prévaloir la sagesse et œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays voisins. Au moins 6 civils ont été tués samedi en Centrafrique après une attaque par des rebelles d'un village situé dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Tchad et le Cameroun. C'est ce qu'a annoncé la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le Nigeria a reçu dimanche des États-Unis 4 millions de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus au moment où le pays traverse une troisième vague. Les doses ont été acheminées par avion à l'aéroport d'Abuja, la capitale du pays. Il s'agit du deuxième lot de vaccins destinés au Nigeria après les 4 millions de premières doses du vaccin d'AstraZeneca reçues en mars dans le cadre du programme COVAX destiné à fournir des vaccins aux pays à faible revenu. Notre programme se poursuit avec la présentation par le père jésuite Martin Bahati du document du magister Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons notre lecture méditative du deuxième point du quatrième chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Dans ce deuxième point, le pape y parle des dons réciproques. Selon le pontife, l'arrivée de personnes différentes provenant d'un autre contexte de vie et de culture devient un don, parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. Et le pape de formuler une requête en ces termes. Je cite, « Je demande en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d'autres jeunes qui arrivent dans leur pays, en les représentant comme des êtres dangereux et comme s'ils n'étaient pas dotés de la même dignité inaliénable propre à chaque être humain. » Fin de citation. D'autre part, souligne l'encyclique, lorsqu'on accueille l'autre de tout cœur, on lui permet d'être lui-même, tout en lui offrant la possibilité d'un nouveau développement. Parlant des cultures, le pape relève la nécessité de rencontres en disant « Nous avons besoin de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant est nécessaire, en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les valeurs de leur propre culture et accueillir les biens provenant de l'expérience des autres. Pour illustrer cette rencontre des cultures, le pape cite des exemples comme la culture des Latinos, qui est un ferment de valeurs et de possibilités qui peut faire beaucoup de bien aux États-Unis. En Argentine, la forte immigration italienne a marqué la culture de la société. Et le pape de conclure par cette belle observation. Les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse et un don qui invite une société à grandir. Dans les soucis d'élargir les horizons, le pape cite sa rencontre avec le grand imam Ahmad al-Tayeb en affirmant ceci. La relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité qui ne peut pas être substituée ni non plus délaissée, afin que tous les deux puissent s'enrichir réciproquement de la civilisation de l'autre par l'échange et le dialogue des cultures. Selon le pape, l'Occident pourrait trouver dans la civilisation de l'Orient des remèdes pour certaines de ces maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme. Et l'Orient pourrait trouver dans la civilisation de l'Occident beaucoup d'éléments qui pourraient l'aider à se sauver de la faiblesse, de la division, du conflit et du déclin scientifique, technique et culturel. Par ailleurs, le pape souligne qu'il est important de prêter attention aux différences religieuses, culturelles et historiques qui sont une composante essentielle dans la formation de la personnalité, de la culture et de la civilisation orientale. Et il est important de consolider les droits humains généraux et communs pour contribuer à garantir une vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident en évitant l'usage de la politique de la double mesure.
Le magazine de l'engagement de la femme au sein de l'Église nous conduit au Canada, où Mary Simon est la première gouverneure générale du pays.
L'Inuit et ancienne diplomate Mary Simon est la première femme autochtone à représenter la reine Elizabeth II au Canada, promettant d'œuvrer à la réconciliation dans un pays secoué par le scandale des pensionnats pour autochtones. C'est avec humilité que je suis prête à devenir la première gouverneure générale autochtone du Canada, a-t-elle déclaré dans son premier discours officiel la semaine dernière lors de la cérémonie d'installation au Sénat à Ottawa. Je m'efforcerai de jeter des ponts entre les diverses origines et cultures qui reflètent le caractère unique et prometteur de notre grand pays, a affirmé l'Inuit de 74 ans qui s'est engagé à représenter tous les Canadiens. Mary Simon a prêté serment lors d'une cérémonie sobre et suivie, contrairement à l'habitude, par seulement 44 invités, dont le premier ministre Justin Trudeau, en raison de la pandémie. Évoquant une journée historique pour le Canada, la nouvelle gouverneure générale a ajouté que la réconciliation, loin d'être aisée, exigeait un effort quotidien. Sa prise de fonction intervient à un moment crucial pour le Canada, confronté à des pages sombres de son passé et sa politique d'assimilation. Des dizaines de milliers d'enfants amérindiens ont été enrôlés de force dans des pensionnats pour autochtones de la fin du 19e siècle aux années 1990, écartés de leur famille et de leur culture, des milliers n'en sont jamais revenus. Évoquant cette réconciliation avec les peuples autochtones, Justin Trudeau a dit avoir hâte de travailler avec Madame Simon pour bâtir un pays meilleur pour tout le monde. Nous avons besoin de gens comme Mary Simon parce que nous avons besoin de gens qui construisent des ponts et nous rassemblent, a-t-il ajouté. Née en 1947, cette Inuit originaire du Nunavik dans le nord du Québec, qui a été ambassadrice canadienne aux affaires circumpolaires, puis au Danemark, a toute sa vie défendu les droits et la culture de son peuple. L'ancienne militante pour les droits des autochtones a rappelé qu'elle avait appris à vivre entre deux mondes. Souvent attaquée depuis sa nomination sur sa non-maîtrise du français, l'une des deux langues officielles du pays, la nouvelle gouverneure générale, qui a fait de la défense de l'Arctique l'un de ses chevaux de bataille, a également évoqué la crise climatique.
La revue de la presse catholique d'Afrique.
Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse catholique africaine que nous ouvrons avec la Semaine africaine, le bi-hebdomadaire d'information et d'action sociale de la Conférence épiscopale de la République du Congo, Congo-Brazzaville. Pour renforcer les capacités des fidèles en pastorale sociale, peut-on lire, la Commission épiscopale Justice et Paix, en relation avec la Conférence des évêques du Congo, a organisé du 19 au 20 juillet 2021 au Centre interdiocésain des œuvres de Brazzaville une session de formation de jeunes laïcs sur la doctrine sociale de l'Église. Durant deux jours, les participants ont abordé plusieurs thématiques basées sur l'engagement social du chrétien et ont été édifiés sur les étapes du plaidoyer social dans la mission de l'Église. Au terme de ces assises, peut-on encore lire, l'Assemblée a statué sur un certain nombre de résolutions comme la prise de conscience à l'engagement des chrétiens et l'engagement pour les laïcs à faire le plaidoyer à tous les niveaux pour l'amélioration des conditions sociales. Faut-il envoyer des missionnaires dans les zones dangereuses? C'est la question que pose la Croix Africa dans ses colonnes de l'édition du vendredi 30 juillet dernier à des prêtres qui accomplissent leur mission dans des régions touchées par les terrorismes. À cette question, peut-on encore lire? L'on peut ajoindre une autre, comment protéger les missionnaires et laïcs dans les zones minées par les terrorismes? Le Burkina Faso est touché par des attaques terroristes depuis 2015, dont certaines visaient directement des communautés chrétiennes, l'Est et le Nord sont particulièrement visés, mais cette année, dans le sud-ouest, un prêtre a été tué par des présumés djihadistes. Il s'agit du père Rodrigo Sanon du diocèse des Banfora. Dans ce contexte, une question paraît légitime. Faut-il envoyer des missionnaires dans les zones jugées dangereuses? Le père Aurélien Rokata Kambale, prêtre du diocèse des Butembo-Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, et directeur de la commission diocésaine des justices et paix, propose une réflexion de fond sur l'insécurité quartier dans sa région où 5 prêtres sont encore portés disparus et où une bombe artisanale a explosé dans une église fin juin. Pour lui, lit-on encore, pour trouver une solution à cette épineuse question, il convient de réfléchir à ses causes profondes, car les missionnaires ne pourront être protégés que si les lieux de leur apostolat est sécurisé. 61 ans d'indépendance du Bénin, une célébration dans l'ombre de la COVID-19 attitrée la Croix du Bénin. Annulée en 2020, les Béninois croiraient qu'avec la vaccination et les mesures sanitaires, ils vivront leur fête nationale avec le défilé militaire de cette année. Mais le gouvernement joue toujours la carte de la prudence, pas de défilé militaire. Le public assistera à une célébration en format réduit diffusé à la radio, à la télévision et sur les médias sociaux. Quand on sait que très peu des Béninois, en particulier les jeunes, peinent encore à bien chanter l'hymne national liton, il y a de quoi s'arrêter pour réfléchir sur la manière originale de vivre certains de moments glorieux de l'histoire du Bénin, malgré les imprévus inhérents à la vie.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.